Bon, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'on peut doucement commencer. Alors, je vais commencer par le résumé donc, du conférencier que nous avons accueilli la dernière fois, qui était Yves van der Wecken. Et vous vous souvenez que j'avais parlé de permutation, ce qui entre bien dans le cadre de ce séminaire, puisque Yves van der Wecken avait repris, au fond, les conférences que Bernard Sénave, tel que c'était inscrit dans le programme, devait présenter. Et donc ce soir, mais j'en parlerai dans quelques instants, nous accueillons Bernard Sénave, qui présentera les séances de ce soir. Alors, Yves van der Wecken a parlé des séances 20 et 21, et il a d'abord insisté sur un premier point, au fond, que ce séminaire, mais ces séances en particulier, étaient particulièrement structuralistes. Il a même parlé d'un certain développementalisme lacanien, terme que Lacan emploie lui-même dans son séminaire, mais à entendre du côté de la logique, de l'articulation et de la structure, pas du côté du génétisme, évidemment. Alors, il a insisté aussi sur le fait que tout au long de ces séances, Lacan, d'ailleurs il est même à un certain moment presque en colère, enfin on peut sentir ça dans le ton de ce qui est écrit, Lacan insiste sur le fait qu'il faut se tenir à la lettre au texte qu'on a de ce témoignage de la cure du petit Hans, et ne pas extrapoler à partir de ce texte. Et donc c'est vraiment une leçon de clinique de se tenir au plus près de ce témoignage et à travers le texte au plus près de l'expérience et du patient, bien sûr. Et donc à travers ce séminaire, Lacan va défendre l'idée que il ne faut surtout pas s'en tenir à des schémas de pensée préétablis quand on travaille en psychanalyse, ni à des démarches appuyées sur le développement génétique. Il ne faut pas non plus utiliser ce que certains appellent les stades comme des formules toutes faites auxquelles il faut se raccrocher comme une grille de lecture a priori. Et il faut vraiment être très attentif à la parole du sujet. Alors, donc oui, comme je l'ai évoqué, c'est notamment à propos de la remarque qui lui était faite que le petit Hans parlait toujours du Lumpf à travers toute sa cure, ou différents moments de la cure, enfin si on peut appeler ça une cure, puisque c'est quand même, il y a un père qui est entre Freud et le petit Hans. Mais disons que, et on lui disait, au fond, vous ne parlez pas du stade anal, et donc Lacan a démontré qu'en aucun cas ce n'était la question du petit Hans pour cet enfant, mais qu'au contraire, derrière ça, il y avait d'une part la question des excréments de la mère, puisque c'était toujours amené en lien avec les excréments de la mère, mais aussi, en dernière instance, de la question du phallus maternel, à travers notamment, si vous vous souvenez, toute la question des culottes de la mère. En deuxième point, donc Yves van der Wecken nous pointe le fait que Lacan affirme qu'il y a un rapport, en tout cas c'est une supposition, un supposé que pose l'analyste, entre les bavardages d'un enfant de 5 ans et ce qu'il met en place comme solution à ces questions, c'est-à-dire la phobie. Et donc partant de là, il dit qu'il faut se tenir au plus près de ce bavardage, mais non plus ne pas aller au-delà. Alors, il donne, Lacan nous dit, van der Wecken, la plus formidable et la plus simple des définitions de ce qu'est une psychanalyse, et surtout avec un enfant. Pour l'enfant, en effet, il ne s'agit pas de parler, simplement, pourrait-on dire, mais bien de parler à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'adresse derrière ça. Et que ce quelqu'un, on lui suppose un savoir, y compris l'enfant. Et Yves van der Wecken nous dit que, au fond, pour que ça se passe, il faut tout du moins inciter l'enfant à ce qu'il parle à ce quelqu'un. Et il montre bien dans le cas du petit Hans combien les interventions du père peuvent être à certains moments positives et mettre en mouvement le travail de l'enfant, tout comme à certains moments elles peuvent causer résistance et arrêter ou mettre un frein à ce travail. Alors, de quoi s'agit-il pour l'enfant? Il s'agit de se situer à travers son développement psychique, dans son existence, de pouvoir se mouvoir, circuler, en tant que garçon sexué et à qui ce titre pourra, à sa façon, aborder la vie, la rencontre avec les autres. Et donc, c'est bien là le but de l'expérience analytique pour cet enfant, du procédé analytique. Et Lacan va parler, au fond, du développement normativant d'un jeune garçon qui se joue, certes, dans l'éducation que ses parents lui donnent, d'une part, mais plus particulièrement, et Yves Van de Reken a insisté là-dessus, dans ce qui se passe dans la relation entre la mère et le père, dans son rapport au phallus. Et donc, on voit bien que toutes les questions que le petit Hans apporte questionnent ce rapport de son père et de sa mère. Alors, ce développement normativant, il ne s'agit pas d'un mythe idéal de l'Œdipe, mais de ce qui est un schéma fondamental, comme le dit Lacan, et donc comme tout schéma fondamental, à nouveau, et on revient à ce que je disais tout à l'heure au début, il ne s'agit pas de l'appliquer telle une grille de lecture à une situation d'un cas singulier, mais ça doit être une formule qui doit être explicitée de mille façons différentes. Et donc on voit à nouveau se repointer là la question du cas par cas. Alors, Yves Van de Reken nous a repéré au fond dans cette façon qu'a de redéplier Lacan dans ses séances, de redéplier au fond ce qu'il en est du complexe de l'Œdipe, qui a quatre conditions. Alors, la première, ce serait, il faut que le vrai pénis, le pénis réel, le pénis valable, le pénis du père fonctionne d'une part. Ça, c'est la première condition, amène Lacan. Deux, il faut d'autre part que le pénis de l'enfant qui se situe comparativement au premier en rejoigne la fonction, la réalité et la dignité. Deuxième condition. Mais pour ce faire, troisième point, il faut qu'il y ait un passage par cette annulation qui s'appelle le complexe de castration. Autrement dit, il est promis à l'enfant qu'un jour il pourra s'en servir de la façon dont son père peut assumer cette fonction paternelle. Et voilà, je pense que c'est à peu près ce qu'il a repris. Et donc, le nom du père, nous dit-il, est nécessaire pour que ce passage se fasse. Il est nécessaire à ce sevrage et plus essentiel que le sevrage primitif, celui du sein, par quoi l'enfant sort de son pur et simple couplage avec la toute-puissance maternelle. Alors, il a terminé, bien sûr, il a repris l'ensemble de certains fantasmes qu'il a redépliés, mais il a terminé, au fond, sur la question de qu'en est-il de la résolution et de l'avancement dans la cure pour le petit Hans. Et finalement, Lacan nous indique qu'il ne s'agit pas d'une résolution complète, idéale, justement, du complexe de l'Œdipe pour le petit Hans, et qu'il reste confronté à une menace de castration, mais du côté maternel, et que cette menace de castration du côté maternel est moins féconde que la menace de castration du côté paternel qui, elle, autorise dans un temps suivant à un avenir pour l'investissement de la position sexuée du petit garçon. Voilà, je pense que j'ai résumé les points principaux que Yves Van de Reken nous avait présentés la fois passée. Alors donc ce soir, comme je l'ai dit il y a un instant, nous accueillons Bernard Sénave qui, au fond, nous rejoint pour la troisième fois dans ce parcours de pas à pas. Et Bernard Sénave est directeur d'une institution dont vous avez souvent entendu parler ici, puisque beaucoup de ses collègues y travaillent en partie. Bernard Sénave est directeur de l'institution du Courtil, située à Tournai et à Lers-Nord, qui sur ces deux sites accueille au fond des enfants du plus bas âge jusqu'au début de l'âge adulte, dont on fait l'hypothèse qu'ils sont plutôt globalement de structure psychotique d'une façon plus globale. Alors, en plus d'être directeur du Courtil, Bernard Sénave est psychanalyste à Tournai et à Lille, et il est analyste de l'école de la cause freudienne. Et je lui cède la parole aujourd'hui pour parler donc des séances 22 et 23, la métaphore paternelle et la métaphore phobique.
Merci. Donc on chemine vers la fin de ce séminaire, puisque il en reste une après une leçon. Et effectivement, je vais essayer de vous commenter la séance, la leçon 22 et la leçon 23. Bon, je n'ai pas assisté, moi, au séminaire, aux séances précédentes, donc je ne sais pas ce qui s'est dit, je suppose. Et donc je suppose aussi qu'il y aura des redites, et puis j'espère amener du nouveau aussi. Hein. Mais il me semblait que pour poursuivre ce travail de réflexion, je sentais le besoin de me remettre moi-même sur les rails. Et donc je vais commencer par introduire à ma façon la question qui est au travail dans ce séminaire, en mettant l'accent sur ce que Miller... sur ce dont Miller s'est aperçu en établissant ce texte. Il dit ceci, il écrit ceci, les terribles conséquences cliniques de la sexualité féminine pour tout sujet, pour autant que chaque sujet est fils d'une mère. Donc, vous parlez de la toute-puissance maternelle, eh bien c'est à comprendre dans ce contexte-là. Au fond, toute la question de ce séminaire est de savoir comment un enfant, c'est-à-dire un petit homme, un être qui parle, comment il va se débrouiller avec le problème existentiel de sa mère en tant que femme, soit avec la sexualité féminine. Comment l'enfant va-t-il pouvoir se débrouiller avec son manque, c'est-à-dire apprendre en tant que sujet féminin, et que Freud a défini comme étant le penis night. Et Lacan présente ici une mère, en toile de fond, il est sévère pour la mère de Hans, il est sévère pour les mères en général quand même. Donc comment l'enfant va pouvoir se débrouiller avec son manque? Donc il présente une femme insatisfaite, une mère qui pâtit d'une insatisfaction constitutive, en tant que sujet féminin. Une mère, la mère de Lacan, est une mère inassouvie. Elle cherche ce qu'elle va dévorer. Comme on l'a déjà dit sûrement et répété des fois précédentes, la mère est présentée comme celle qui est prête à dévorer l'enfant. D'où la métaphore du crocodile qu'il va amener plus tard, dans la gueule duquel va se trouver l'enfant, la mâchoire prête à se refermer. Et donc l'élément central de ce séminaire, c'est par conséquent la morsure. La morsure que Lacan, notamment dans ses leçons que je vais commenter, reprend dans un mathème qu'il tente de mettre au point, celui de la métaphore paternelle. Il indique d'ailleurs la morsure, il la reprend par la lettre M, petit m, dans les mathèmes qu'il va développer ici. Et toute la question infantile, telle que Lacan la situe à cette époque, est de savoir comment assouvir le désir de la mère en relation avec son propre manque. Comment faire avec le manque de la mère est la question qui est posée. Comment se débrouiller avec la menace qui pèse sur l'enfant à ce moment de son histoire et qui se manifeste de manière plus aiguë par le surgissement de ce rêve d'angoisse, dont on a sûrement déjà parlé, l'angoisse du petit Hans. Ainsi donc, souligne Miller, le séminaire 4 est un séminaire sur la sexualité féminine. Et il précise que la question de la psychanalyse avec les enfants est celle de la sexualité féminine, dans la mesure où il s'agit de la femme par rapport à son propre manque. L'accent est mis sur le désir de la mère et aux conséquences de la sexualité féminine de la mère en tant que femme. Et l'enfant vient là en tant que solution, pour beaucoup de femmes, solution au manque féminin. Et si la femme, pour sa part, trouve dans l'enfant une satisfaction, dit Lacan, c'est précisément pour autant qu'elle trouve en lui quelque chose qui calme, qui apaise en elle, plus ou moins bien, son besoin de phallus qui le sature. Donc, l'enfant, en tant qu'objet réel de la mère, prend pour elle la fonction symbolique de son besoin imaginaire. On va reprendre ça. C'est une phrase compliquée. Et dans ce séminaire, Lacan rejoint Freud, qui avait formulé cette substitution métaphorique, enfant égale phallus. L'enfant se substituant au manque féminin. Et lorsque Lacan aura formulé plus tard, si vous voulez, son petit objet A, dont vous avez sûrement entendu parler, il va amener la métaphore qu'il a écrite dans sa lettre à Eugène Aubry, l'enfant comme objet A. L'enfant dans le fantasme maternel. En tant qu'objet dans le fantasme maternel. Donc la mère manque, la mère est trouée. Elle manque et elle est manquante. Et elle empathie. Et toute la question se pose alors sera de savoir comment l'enfant va découvrir, quoi ? Premièrement, que sa mère est manquante, à un moment donné, il s'en aperçoit, insatisfaite. Deuxièmement, que lui-même, qui est appelé à venir boucher ce trou du manque chez son autre primordial dans la vie, que lui-même ne suffit plus à la combler. Troisièmement, comment, dans ces conditions, va-t-il s'en tirer, trouver sa solution ? Donc, je propose d'en passer par les trois étapes suivantes. Je vais d'abord reprendre rapidement la logique de ce nouage, si vous voulez, enfin, de cette impasse dans laquelle sont pris la mère et l'enfant. Et la question se résume en ceci, comment sortir d'une impasse imaginaire à une solution qui est symbolique. Je vous donne déjà les éléments de la réponse. Le petit sujet, quel qu'il soit d'ailleurs, va devoir en passer par une opération de soustraction pour qu'il puisse accéder à l'usage légitime de son organe. Donc, dans la situation actuelle que connaît le petit Hans, là où il en est au moment où il doit trouver cette solution, au moment où il est sur le chemin de sa solution, ou j'allais dire au bord, avant de trouver cette solution. Disons qu'il est dans l'empire de l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui domine, qui prédomine. Et donc, face à cette impasse, la solution, si vous voulez, la seule solution, la passe se présente comment ? La soustraction dont je vous parle, donc la morsure, la soustraction par la morsure, c'est une soustraction imaginaire, mais d'un objet réel. On va la lui couper. On va le bouffer. Donc, ensuite, je dis rapidement là où on va arriver. Je vais ensuite m'arrêter à la solution du petit Hans, formulée par Lacan, qui prend appui sur la clinique de ce cas. Cette solution, c'est celle de la métaphore paternelle, ce vers quoi vous vous êtes engagé avec Yves de Van de Vreken la dernière fois. Et cette solution paternelle, c'est une solution qui en passe par le symbolique. On est dans l'imaginaire, va falloir aller vers le symbolique. Et enfin, je vais dire quelques mots, de la solution singulière du petit Hans, que Lacan présente comme atypique, boiteuse, ça avait été annoncé la dernière fois. Donc pour que la loi symbolique se mette à fonctionner, il faut que le père soit instauré, installé. Mais c'est ce père symbolique, pour comment doit-il s'installer ? Eh bien, il faut que le père de la réalité, le papa, c'est le père de la réalité qui doit faire exister ce père symbolique. C'est son papa que l'enfant attend. Il attend de lui qu'il lui donne ses lettres de, il attend de lui qu'il donne à ce père symbolique ses lettres de noblesse. Et il est nécessaire que ce père de la réalité, ce personnage paternel, soit suffisamment incarné. Ça me gêne, ça. Comme ça. Voilà. Donc, il faut que ce personnage paternel soit suffisamment incarné, installé et se faire connaître à cette place pour que le père symbolique fonctionne correctement. Et ça n'est pas tellement le cas du papa du petit Hans. Ce père, nous dit Lacan, est carent. Donc, d'abord, venons-en à cette impasse dans lequel sont pris le petit Hans et sa mère en tant que femme. Alors, il y aura peut-être des redites, hein. C'est peut-être intéressant de resituer d'où l'on part pour mieux comprendre où il faut arriver. Tant pis. D'où vient-on ? Alors, dans ce séminaire, Lacan fait fonctionner trois manques. Je vous parlais de l'imaginaire, passer de l'imaginaire au symbolique. Eh bien, dans ce séminaire, Lacan fait fonctionner trois manques. C'est un rappel. En fait, Lacan reporte le manque dans trois registres différents. Alors, je ne reviens pas sur tous les détails de ces formes de manque. Mais pour tenter de les situer rapidement, je vais les situer dans trois exemples, reprendre trois exemples pour bien les comprendre. Il y a d'abord la frustration, il y a la castration et il y a la privation. Alors, la frustration se situe dans le registre purement imaginaire. C'est l'exemple qui est repris de saint Augustin, de l'invidia, si ça vous dit quelque chose. La jalousie, l'envie imaginaire de l'enfant voyant son frère de lait pendu à la mamelle. C'est l'exemple de saint Augustin. C'est un dame. L'objet saint, dans le cas présent, l'objet saint est un objet réel. Il est réel dans la scène. La jalousie est imaginaire. C'est le rival qui le possède. C'est un manque imaginaire d'un objet réel. Je vais peut-être faire un tableau pour que vous suiviez plus facilement. Si je mets la frustration ici, elle est imaginaire, le manque est imaginaire, et l'objet est réel. Ok ? Le manque dans la castration, il est symbolique. Quand le surmoi menace un enfant, lorsqu'il transgresse une règle, on ne pense pas à le trancher réellement l'organe. Le complexe de castration se perçoit dans le sentiment de culpabilité et se traduit par une dette du sujet. Le manque, il est symbolique et l'objet est imaginaire. Alors, dans la privation, le manque, il est réel. Alors, exemple penser, songer à un livre qui manque dans une bibliothèque. Le trou, il est réel. Il manque réellement, mais l'objet est symbolique. Donc ce qui fonctionne surtout à la veille, donc à la veille du développement du symptôme du petit Hans, c'est la dimension imaginaire. Il est avec ça, il travaille, il a affaire à ça. Donc dans la relation de la mère et de son enfant, le manque doit évidemment s'envisager selon deux points de vue. Du point de vue de l'enfant, mais aussi du point de vue de la mère. Et si on se situe d'abord du point de vue de la mère, il faut se poser la question de savoir à quelle place vient l'enfant dans son économie subjective, dans l'économie subjective de la mère. C'est ce que Lacan formule par cette phrase dans son séminaire à la page 56. Il y a toujours chez la mère, à côté de l'enfant, l'exigence du phallus que l'enfant symbolise ou réalise, plus ou moins. Donc c'est ce que Freud définit par le penis night, la mère, la femme, le traite par un désir d'enfant. Enfin, un certain nombre de femmes le traitent par un désir d'enfant. Dans l'économie subjective de la femme, le désir d'enfant trouve là toute sa pertinence. Et c'est dans cette dialectique-là que va devoir s'inscrire son enfant. L'intérêt de cette répartition du manque dans les trois registres est d'indiquer que tout va bien pour le petit Hans tant qu'il peut se maintenir dans ce registre du leurre, de l'imaginaire. On joue à leurrer l'autre en face. C'est le registre de l'imaginaire qui consiste à leurrer sa mère en lui faisant croire qu'il est ce manque, lui, son enfant, il est ce qui la comble, il est tout pour elle. On est dans l'empire du leurre. Et Hans peut la combler, il peut combler son manque, il peut boucher le trou du manque de sa mère. Et cette situation d'ailleurs comblait Hans lui-même. Dans un premier temps, tout l'univers, tout son univers va se réguler dans ce registre à trois termes, mère, enfant, phallus. Mais Lacan pose alors cette question. À quel moment l'enfant est-il en mesure de s'apercevoir que ce que sa mère désire en lui, c'est son image phallique à elle, la mère. Il y a là un hiatus, si vous voulez. Si on fait ce triangle, dans la relation mère-enfant, eh bien, entre deux, il y a le phallus. Quand s'apercevra-t-il cet enfant que ce qu'il vient saturer chez sa mère, c'est l'image du phallus qui lui manque à elle? Alors, laissons cette question en suspens pour le moment. Donc, pour le petit Hans, tout être vivant, on en est là, tout être vivant, je vous dis, c'est le registre, c'est l'empire de l'imaginaire, c'est l'empire du leurre. Tout être vivant est pourvu d'un pénis. Pourquoi en serait-il autrement? La question ne se posait pas de savoir si une part de l'humanité n'en était pas pourvue. En tout cas, sa mère en est pourvue. Il en a la certitude. Le contraire n'est pas envisageable. Il lutte contre cette idée. C'est le déni de la castration. Alors, on se situe à cette période de l'observation du petit Hans où l'imaginaire prédomine. Quand les choses vont-elles se gâter pour lui, pour ce petit bonhomme? Eh bien, les choses vont commencer à se gâter lorsque va se produire un déséquilibre dans ce montage imaginaire. Et ce déséquilibre va se produire lorsque le petit Hans va devoir faire face simultanément à plusieurs rencontres. Ils ont plusieurs surgissements, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'ils rencontrent? D'abord, une petite sœur qui va s'installer dans sa vie. Cette petite sœur qui intéresse sa mère, une rivale donc. Et qui plus est, il va découvrir que la petite sœur n'est pas pourvue de l'organe. Se posera alors la question de savoir si sa mère est une femme, qui est une femme en est pourvue. À cette question, je vous ai dit, il opposera un démenti, un déni, dans un premier temps. Si les femmes n'en sont pas pourvues, ce n'est en tout cas pas le cas de ma mère, mais cette dénégation ne durera qu'un temps, si vous voulez. C'est le surgissement, donc ça c'est le premier temps, c'est la première chose. D'ailleurs, il pourra aller jusqu'à dire, ça lui poussera à sa petite sœur. Alors, autre rencontre, sûrement, dont on doit avoir parlé, c'est le surgissement d'une jouissance que Lacan définit comme hétérogène, qui vient s'imposer dans son rapport à sa mère. Au fond, qui vient foutre le bazar dans ce jeu de qui. C'est que son fait pipi commence à donner de la tête, si vous voulez, à faire des siennes. Alors, tout le problème dans cette rencontre de petit Hans avec sa propre érection est au fond celui d'un trou dans la mer qui vient en quelque sorte mettre en impasse la solution qu'il avait auparavant mise au point, la solution imaginaire. Ça ne tient plus. Cette solution consistait à combler le manque maternel par un jeu de cache-cache. Je vous l'ai dit, elle l'a. Mais si elle l'a, mais non, elle ne l'a pas. Mais ça va lui pousser. Il l'est lui-même pour elle. Et Lacan fait d'ailleurs tout un développement autour de ce moment de son existence qui consiste à jouer lui-même, à se cacher lui-même en tant que petit bonhomme, en tant que petit garçon, puis à se montrer tout érigé devant sa mère. Alors, on voit bien que Hans incarne là quelque chose que Lacan définit comme l'objet fétiche qu'il fait briller pour sa mère. Donc, ce n'est pas qu'il a l'objet fétiche, il est l'objet fétiche, c'est différent, c'est tout à fait différent au niveau structural, parce que dans le second cas, avoir l'objet fétiche relève plus de la perversion. Donc, cette solution imaginaire, à trois termes, mère, enfant, phallus, se situant dans la dimension de la frustration, ne tiendra plus la route à partir du moment où Hans devra conjuguer la possibilité de la disparition imaginaire du pénis et le surgissement d'une jouissance hétérogène issue de son petit organe et de son usage. Alors, la question qui va se poser maintenant, hein, c'est comment métaphoriser cette jouissance d'organe, au fond? Comment lui donner un sens? Comment l'intégrer dans sa vie. Et pour ça, il va lui falloir un quatrième terme pour qu'il puisse sortir de cette impasse, pour qu'il puisse sortir de l'impasse de cette solution imaginaire qui ne tient plus la route. Donc, vous l'aurez compris, ce quatrième terme, c'est le père. Le père qui devra lui permettre de passer du registre de l'imaginaire à celui du symbolique. D'où la question qui est posée par Lacan dans les dernières leçons de ce séminaire. Qu'est-ce que c'est qu'un père? Qu'est-ce qu'un père? C'est la question de Hans. Cette question se formalise après tout ce chemin qu'il a parcouru de cette première partie de son enseignement, rappelons-le, nous sommes en 57, hein, soit au moment où Lacan accorde la primauté au symbolique, au signifiant. Donc le symbolique, dit-il à cette époque, est là avant l'apparition même du sujet, parce qu'il n'y a de sujet que du signifiant. Et c'est comme ça qu'il peut dire, dans cette leçon qu'on travaille ce soir, que si l'expérience analytique a montré quelque chose, c'est bien que tout rapport humain est fondé sur une investiture. Il y a une investiture sous la forme de l'autre. L'être humain est déjà investi par l'autre avant même qu'il ne soit né. Donc cet autre, il va parler du Père, hein, donc je suis en train de vous parler du Père. Cet autre est d'ores et déjà en nous sous la forme de l'inconscient, dit Lacan. Première précision. Seconde précision, dit-il, rien dans notre propre développement ne peut se réaliser si ce n'est à travers une constellation qui implique l'autre absolu comme siège de la parole. Et continue-t-il, si le complexe d'Œdipe a un sens, c'est précisément parce qu'il se donne comme le fondement de notre installation entre réel et symbolique. L'existence de celui qui a la parole, celui qui peut parler du Père. Bon, pour le dire encore autrement, s'il vous plaît. Premièrement, l'ordre symbolique, il est là avant même l'avènement du sujet. À cette époque, c'est ce qu'il dit. Il ne dira pas ça tout le temps. Deuxièmement, le fondement du complexe d'Œdipe, ça consiste à donner toutes ses lettres de noblesse au Père, soit au quatrième terme, qui va rendre possible au sujet d'inventer une autre solution qu'imaginaire, d'inventer sa place entre le réel et le symbolique, d'inventer quelque chose entre deux. Et ce complexe d'Œdipe, eh bien, va permettre de donner la parole au Père, si vous voulez. Donc, va donner la parole au Père. Donc, dans ce triangle mère-enfant-phallus, eh bien, le Père va devoir intervenir. Mais, petit problème, comme le souligne Lacan. Cela ne résout pas la question du Père. Qu'est-ce que c'est qu'un Père, après tout ? Alors, Lacan va tenter d'indiquer où se situe le petit Hans par rapport à cette question du Père. Qui est le Père dans l'affaire du petit Hans ? Voilà la question qui est posée dans cette leçon. Qui est le Père du petit Hans ? Et le premier point que Lacan veut mettre en évidence, c'est que pour accéder à l'assomption de son propre sexe, l'homme doit en passer par une privation. Je l'ai souligné tout à l'heure, une soustraction. Cette notion est centrale, nous dit Lacan, pour comprendre que tout le progrès de l'intégration de l'homme, comme de la femme d'ailleurs, à son propre sexe, exige la reconnaissance d'une privation, d'une soustraction. Privation qui est à assumer pour les deux sexes, dit Lacan. Penis night d'un côté pour la femme, complexe de castration pour l'autre. Donc, pour sortir de cette impasse imaginaire, la solution, c'est la grande découverte de Freud, le complexe d'Œdipe auquel s'articule le complexe de castration. Il y a deux doubles dimensions qu'il ne faut pas perdre de vue. Le complexe d'Œdipe auquel va s'articuler le complexe de castration. Ce n'est pas la même chose. Enfin, on va porter les nuances. Au plus simple, un père est appelé pour priver l'enfant de la jouissance de la mère. Le complexe d'Œdipe, un père, est appelé, complexe de castration, pour priver l'enfant de la jouissance de la mère. Mais ça sera pour un bénéfice, l'accès à son propre sexe. Alors, voyons un peu quel est ce père qui doit opérer cette privation. Privation, comme on l'a vu, qui est nécessaire à ce que l'enfant puisse accéder à son propre sexe et en faire un usage légitime. Alors, on a un tout petit peu le temps, je vais vous lire ce que Lacan amène comme petit exemple pour ne pas confondre, si vous voulez, les différents pères qui peuvent exister. Je vais vous lire ça, c'est à la page 375. Je ferai état d'une information qu'un de mes excellents amis a relevé dans le journal d'information par excellence et m'a rapporté. Donc cette petite nouvelle nous vient du fond de l'Amérique. Depuis la mort de son mari, une femme, liée à lui par le pacte d'un éternel amour, se fait faire tous les 10 mois un enfant par celui-ci. Difficile à comprendre. Cela peut vous paraître surprenant. Ne croyez pas qu'il s'agisse là d'un phénomène parthénogénétique. Il s'agit au contraire d'insémination artificielle. Au moment de l'ultime maladie qui conduisit son mari à trépasser, cette femme, vouée à la fidélité éternelle, fit emmagasiner une quantité suffisante du liquide qui devait lui permettre de perpétuer à son gré la race du défunt dans les délais les plus courts et à intervalles répétés. Cette petite nouvelle qui n'a l'air de rien, il nous a fallu l'attendre alors que nous aurions pu l'imaginer. C'est l'illustration la plus saisissante que nous puissions donner à ce que j'appelle le X de la paternité. Quand je vous dis que le père symbolique, c'est le père mort, vous en voyez là une illustration. Mais ce que cela introduit de nouveau et qui est bien pour mettre en relief l'importance de cette remarque, c'est que dans ce cas-ci, dans l'exemple qui est nommé, le père réel est aussi le père mort. Donc c'est saisissant comme exemple. C'est en 57 ça. C'est déjà en 57 ça. Donc il pointe ça, je trouve ça fort intéressant. Donc cette histoire que raconte Lacan, 57, comme on s'en aperçoit, est plus que jamais d'actualité au XXIe siècle, et elle le sera probablement de plus en plus compte tenu de la vitesse avec laquelle progresse le discours de la science. Eh bien, cette histoire, nous dit Lacan, va nous permettre de faciliter la formulation de ce terme dans lequel peut s'inscrire la fonction du père symbolique. Donc, pour introduire la fonction de ce père symbolique, Lacan va s'appuyer sur une fonction de l'inconscient déjà découverte par Freud, si vous vous en rappelez. C'est celle de la condensation, qui est reprise plus tard par la linguistique moderne sous le nom de métaphore. La métaphore. Alors, Lacan avait déjà introduit cette fonction l'année précédente dans le séminaire 3 qu'on a commenté l'année dernière, je pense, c'est ça, hein, lorsqu'il traitait de la psychose. Donc Lacan se situe au moment charnière, donc dans cette leçon, dans ces leçons-ci de ce séminaire 4. C'est un moment charnière qui va lui permettre d'arriver juste l'année suivante à la formulation de ces mathèmes sur le nom du Père et sur la forclusion du nom du Père. Il est en train de formaliser ce mathème. D'ailleurs, qui aura l'allure de ce qui apparaît dans cette leçon-ci, dans ces leçons-ci. Donc, le nom du Père qu'il va publier en janvier 58, encore ici on est en juin 57, dans son texte d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, c'est quelques mois plus tard. On se situe donc ici, dans ces dernières leçons du séminaire 4, au moment où Lacan cherche à formaliser ce mathème de la métaphore paternelle. Il introduit une série de formules, d'ailleurs qu'on peut suivre, hein, si vous avez lu la leçon pas à pas, et qui doivent lui permettre de saisir le bouleversement subjectif de ce petit bonhomme, du petit Hans. Donc le petit Hans qui tente, avec une rigueur étonnante, de sortir de cette impasse imaginaire dans laquelle il est empêtré. Comment ? Eh bien par des manipulations signifiantes, par des mots. Et il va en sortir. Il va en sortir à un moment donné grâce à un jump qui consistant en une véritable invention, si vous voulez, invention métaphorique. J'y vais mollo parce que on ne peut pas crier victoire trop vite. Parce que dans cette leçon, Lacan poursuit donc sa route en expliquant à son public ce qu'est une métaphore. Et il s'appuie sur une métaphore dont il a déjà parlé, je pense que c'est l'année précédente, celle qu'il va chercher chez Victor Hugo dans son poème « Beau s'endormir ». Alors je voudrais alléger un peu l'exposé, et j'ai envie de vous lire ce poème, parce qu'il est magnifique. Alors, avant de vous le lire, ou en tout cas des parties si vous voulez, pour un peu vous reposer, et les ménages aussi, le vers qu'il veut mettre en évidence, c'est celui-ci. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Qu'est-ce qu'une métaphore ? Je vais vous lire le poème d'abord. Je vais essayer de vous le lire. Ce n'est pas si simple de le déclamer. Alors, le poème, c'est « Beauce endormi ». C'est un poème de Victor Hugo. « Beauce s'était couché de fatigue, accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Beauce dormait auprès des boisseaux pleins de blé. » C'est pas mal jusque-là. Ce vieillard, donc il faut bien percevoir de qui il s'agit. Beauce est un vieillard. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Donc c'est un vieillard juste. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe, on insiste sur sa vieillesse, sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissait tomber des épis, disait-il. Beauce était bon maître et fidèle parent. Il était généreux. C'est un vieillard, un homme, vieux, généreux. Quoiqu'il fût économe, les femmes regardaient Beauce plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Donc, Beauce, dans la nuit, dormait parmi les siens, près des meules qu'on eût prises pour des décombres. Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans des temps très anciens. Très anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge. La terre où l'homme errait sous la tente, inquiet, des empreintes de pieds de géants qu'il voyait étaient mouillées encore et molles du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Beauce, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée, au-dessus de sa tête un songe descendit. Et ce songe était tel que Beauce vit un chêne qui sortit de son ventre, allait jusqu'au ciel. Une race y montait comme une longue chaîne. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Et Beauce murmurait avec la voix de l'âme, « Comment se pourrait-il que de moi ceci vint ? Je chiffre de mes ans passés 80, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle que avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante et moi mort à demi. Une race naîtrait de moi ? Comment le croire ? Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants ? Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Mais vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau. Je suis veuf, je suis seul. Et sur moi le soir tombe, et je courbe, mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Ainsi parlait Beauce dans le rêve et l'extase. Tournant vers Dieu ses yeux vers le sommeil noyé, le cèdre ne sent pas une rose à sa base. et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée au pied de Boaz, le sein nu, espérant qu'on ne sait quel rayon inconnu, quand viendrait du réveil la lumière subite. Boaz ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle, je ne sais pas ce que c'est. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Boaz qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait et Boaz dormait. L'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Gérismathée. Des astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair parmi les fleurs de l'ombre brillait à l'occident, et Ruth se demandait immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été, avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. C'est magnifique, hein? C'est très beau comme poème. Et donc ça me va comme une bague au doigt. Voilà ce qu'il en dit. Alors on s'aperçoit d'abord que la phrase comme telle, si vous voulez, sa gerbe, si on l'isole comme ça, sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Bon, on s'aperçoit que cette phrase n'a pas de signification, si vous voulez. Enfin, elle n'a pas de sens. Si on s'arrête au plus près du texte, on se dit que, ben, si vous voulez, c'est évident qu'une gerbe ne peut pas être avare ni haineuse. Alors pourquoi on a besoin de le dire? Ces attributs, si vous voulez, avare et haineux, ne conviennent pas au sujet de la phrase gerbe. Ça ne va pas ensemble. La question qui se pose est alors de tenter de savoir pourquoi l'auteur Victor Hugo a besoin de formuler les choses de cette façon-là. Et lorsqu'on fait un pas de plus, on finit par se dire que si l'auteur a écrit cette phrase, c'est qu'elle suppose que cette gerbe aurait bien pu être avare ou haineuse. Mais on ne sait juste pas toujours pourquoi et en quoi une gerbe puisse être avare ou haineuse. Alors on parvient, je dirais, à attraper quelque chose, à saisir quelque chose, à partir du moment où on prend connaissance de l'ensemble du poème. Donc, le signifiant gerbe dans le poème, on a compris qu'il est venu se substituer à un autre, celui de Boaz. Alors, vous avez tout le poème en tête, donc vous l'avez encore en tête. Donc, il vient à la place de Boaz, signifiant qui de ce fait a disparu. Gerbe vient représenter Boaz. C'est une substitution qu'on peut écrire comme ça. Gerbe vient représenter Boaz. La gerbe a pris la place de Boaz, et ce faisant, elle l'annule. Nous retrouvons, dit Lacan, le schéma du symbole en tant qu'il est la mort de la chose. Alors c'est bien le cas de le dire dans le poème qu'on vient de lire. Le nom du personnage est aboli. Si on isole la phrase, le nom du personnage est aboli. Et c'est sa gerbe qui vient se substituer à lui. Et ajoute Lacan, Boaz, après avoir été éclipsé, occulté, aboli, reparaît où? Eh bien, dans le rayonnement fécond de la gerbe. Alors, bon, de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce poème? C'est un poème qui parle de la paternité, on l'a compris, de la paternité et de la fécondité. Beau, c'est un vieillard, il a maçonné toute la journée d'été, toute une journée d'été, et la nuit tombée, il s'est couché près de ses meules et s'est endormi. On présente Beauce comme un homme qui est bon, courageux, généreux, et pendant son sommeil, Ruth s'est couchée près de lui, le sein nu, nous dit Victor Hugo, et il arriva qu'elle devint féconde, alors que lui, vieillard, est au crépuscule de sa vie. Et Lacan relève plusieurs choses dans ce vers. Il a déjà mis en valeur l'effet métaphorique du vers, dans lequel on s'aperçoit maintenant que le signifiant gerbe prend toute sa grandeur, toute sa noblesse. Le père disposant du phallus puissant et généreux. Mais Lacan met en exergue un autre signifiant, si vous avez bien compris, si vous avez bien entendu le poème, un autre signifiant, c'est celui de la faucille, auquel le poète a substitué le signifiant croissant de lune brillant dans le ciel bleu. Il s'agit en effet du fin et clair croissant de lune, nous dit Lacan. Mais il ne peut vous échapper, ajoute-t-il, que si la chose porte ce fin et clair brillant croissant de lune dans le ciel bleu, si la chose porte, si elle est autre chose qu'un très joli trait de peinture, une touche de jaune sur le ciel bleu. C'est pour autant que la faucille est l'éternelle faucille de la maternité. Celle qui a déjà joué son petit rôle, si vous pouvez vous en rappeler, celle qui a déjà joué son petit rôle entre Cronos et Uranos, entre Zeus et Cronos. C'est la puissance qui est là bel et bien, elle est bel et bien représentée dans l'attente mystique de la femme, avec cette faucille qui traînera à la portée de sa main, la glaneuse tranchera effectivement la gerbe dont il s'agit, celle de laquelle rejaillira la lignée du Messie. Alors revenons, si vous voulez bien, à partir de ça, de ce qui était nécessaire, si vous voulez, pour Lacan. Revenons à notre petit Hans. Donc, Hans doit sortir de cette ornière imaginaire, vous ai-je dit, dans laquelle il est empêtré. Le petit garçon ne peut s'inscrire, ne peut que s'inscrire, petit Hans, ne peut que s'inscrire dans la même logique que celle qui est utilisée par le poète dont on vient de parler. Exactement de la même façon. Le petit Hans va construire un mythe. Voyons cela. Donc c'est ici que Lacan se met à formaliser son thème de la métaphore paternelle. Et qu'est-ce qu'il dit ? Toute la question est d'en passer, je vous ai dit, par une opération symbolique, et elle ne peut être effectuée que par un acteur supplémentaire. Le quatrième terme, dont je parlais tout à l'heure, le père symbolique. Il s'agit d'effectuer une soustraction de jouissance, pour obtenir un bénéfice qui sera plus limité, disons, qui sera en tout cas encadré, qui sera légiféré, légalisé aussi. On aura compris que le complexe d'Œdipe, c'est la façon de comprendre que le complexe d'Œdipe, l'arrivée du père va s'articuler avec une soustraction, avec le complexe de castration. Et Freud le dit avec ces mots, le père interdira à l'enfant de jouir de sa mère de telle sorte qu'il aura accès aux autres femmes. Réciproquement pour la fille d'ailleurs. Alors, revenons-en à la formule de Lacan. À ce stade, Lacan représente l'enfant par un X, une inconnue, soit une énigme plutôt. Une énigme dans la relation à sa mère. Que me veut-elle ? Me veut-elle tout entier ? Et la question qui est posée à l'enfant. Et donc, nous avons, dans le complexe d'Œdipe, la place d'un X, d'une énigme. Celle où est l'enfant avec tous ses problèmes en rapport avec sa mère. Sa mère aime. Donc, on peut écrire ça. C'est le complexe d'Œdipe, ça. Donc, voilà l'enfant. X. Enfin, en tout cas, l'énigme, ce qu'il représente dans le désir de sa mère. C'est comme ça qu'il l'écrit à ce moment-là de son enseignement. Et donc, le père doit advenir, et la mère est ici. Ça, c'est le complexe d'Œdipe. Alors, au complexe d'Œdipe, va devoir s'articuler pour en sortir, si vous voulez, le complexe de castration. Alors, que dit Lacan ? C'est dans la mesure où quelque chose sera produit qui aura constitué la métaphore paternelle que pourra se placer cet élément signifiant, essentiel à tout développement individuel, qui s'appelle le complexe de castration, et ce, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Alors, le complexe de castration, si vous voulez, le complexe d'Œdipe s'articule, c'est comme ça qu'il présente par un S couché, s'articule avec la faucille, donc la soustraction, et un gain de signification, si vous voulez, dit encore autrement. Donc, à droite, on a le complexe de castration, qui s'articule avec la métaphore œdipienne. Donc, le complexe de castration qui suit cette phase, si vous voulez. Soit la faucille du complexe de castration, faucille dont on a parlé tout à l'heure, plus une nouvelle signification. Une nouvelle signification qui va lever l'énigme du X. Ça va, ça? Donc, il y a une énigme. Que suis-je? Que suis-je pour elle? Que me veut-elle? Et donc le complexe d'Œdipe va permettre alors donc, que s'instaure le complexe de castration, c'est-à-dire une soustraction, mais ça sera avec un gain de sens, c'est-à-dire il y aura du sens qui va être ajouté à cette énigme. Dit autrement, si vous voulez, dans le battement à présence-absence de la mère, au fond prononçant au plus simple. Ma mère s'en va, elle est passée derrière la porte, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Elle me laisse tomber. La réponse, mon père s'occupe d'elle. Voilà la castration. C'est mon père qui s'en occupe. Il faut dire que ça n'a pas suffisamment joué pour le petit Hans. Ça n'a pas été suffisant pour le petit Hans. Il faut dire que la mère aussi s'intéressait beaucoup à lui. Alors, faisons un pas de plus tout de suite tant qu'à faire. Quelques mois plus tard, puisqu'on sera en janvier 58, Lacan définira cette opération encore autrement. Donc, la métaphore paternelle, ce sens, si vous voulez, ça sera la signification phallique. Alors, comment on peut écrire ça? Eh bien, il va l'écrire de cette façon-ci. Le nom du père... Donc le désir de la mère avec un grand M, désir de la mère, avec son X, avec son désir, enfin ce qu'elle veut, que me veut-elle, eh bien le nom du père viendra à la place se substituer, remplacer le désir de la mère, et ça va permettre... que donc ce nom du père va continuer à fonctionner après. Ce nom du père sera là pour légiférer, si vous voulez, pour régler l'existence du petit sujet. Et ça va donner à tout le symbolique une signification phallique. C'est-à-dire que toute chaîne signifiante, au bout du compte, aura sa signification, une signification phallique. On a le mathème de la métaphore paternelle, soit la métaphore qui, dit Lacan, la métaphore qui substitue le nom du père, suivez bien la phrase, elle est très précise, elle est simple à comprendre si on la suit pas à pas. Donc la métaphore du nom du père, qui substitue, la métaphore paternelle qui substitue le nom du père à la place premièrement symbolisée de l'opération de l'absence de la mère. Et cette mère qui va et qui vient dans un battement de présence-absence, eh bien, une fois donc, que la métaphore paternelle s'est instaurée, s'est installée, eh bien, c'est le nom du père qui viendra se substituer à l'absence, à ce X, si vous voulez, à cette énigme du battement de la présence et de l'absence de la mère. Donc cette opération permet que toute chaîne signifiante, tout le symbolique, si vous voulez, va acquérir une signification phallique. Donc, on assiste à un double mouvement. D'une part, il se passe quelque chose dans la relation avec la mère qui introduit le père comme facteur symbolique. C'est lui qui possède la mère. C'est lui qui en jouit légitimement. On assiste là à une soustraction de jouissance de l'objet. Soustraction pour l'enfant, pour le sujet enfant. Soustraction. D'autre part, quelque chose fait entrer dans le jeu, je dirais instinctuel, enfin c'est Lacan qui dit ça, instinctuel du sujet, une signification nouvelle. Une nouvelle signification essentielle, qui est vraiment spécifique au genre humain, aux êtres qui parlent, dans la mesure où va pouvoir maintenant se déployer une nouvelle dimension, celle du symbolique. Alors, cette signification qui s'inscrit là sous la barre, phi, Lacan ici l'appelle la castration. Elle deviendra par la suite la signification phallique. Bon, alors, revenons maintenant à notre petit Hans. Donc, il y a une fonction qui est sollicitée pour venir répondre à un certain danger. Ce danger, il est d'abord indéfinissable pour Hans. Il surgit d'un rêve d'angoisse, vous vous souvenez. Cette angoisse va surgir parce que le petit garçon est dans une impasse. Pour tout dire, dit Lacan, il n'y a pas d'issue du côté de la faucille, du côté du complexe de castration. Le père n'est pas suffisant, si vous voulez. Il n'a pas la possibilité d'une médiation, c'est-à-dire de perdre une part de sa jouissance pour retrouver un usage légitime de son pénis. Donc, on se situe dans une autre équation, dit Lacan. C'est pas tout à fait ça qui va se passer pour lui. Enfin, c'est quelque chose qui ressemble à ça. En tout cas, la métaphore paternelle va fonctionner. Mais pas tout à fait de cette façon-là pour lui. Donc, d'un côté, on a affaire à une chose indéfinissable, sans forme constituée, de ce à quoi le monde du petit Hans a affaire, soit de sa mère, la jouissance pénienne, et le surgissement d'un nouveau venu au monde. Donc, c'est ce petit être, vous vous souvenez, ce petit être auquel sa mère s'intéresse maintenant, et qui le délaisse, lui, sa petite sœur Anne, qui n'est pas pourvue de cet appendice, qui jouit, et donc, dont on peut manquer. Au fond, ce qu'on a, si vous voulez, c'est plutôt, à la place de ce que j'ai inscrit au tableau, on a plutôt autre chose, que je vais reprendre directement de Lacan lui-même. Cet ensemble de la mère eh bien il est constitué de la mère elle-même, de son petit pénis qui fait des siennes, et de sa sœur Anna. Alors de l'autre côté de l'équation maintenant, Si on devait mettre le petit S inversé là. Qu'est-ce qu'il trouve? Eh bien, il est dans ce moment où il ne trouve que la morsure. La morsure qui est possible, morsure de la mère, qui est la même morsure avec laquelle il se précipite goulûment sur elle, pour autant qu'elle lui manque. Il n'y a pas d'autre relation réelle avec la mère que celle qui met en relief toute la théorie présente de l'analyse de Lacan, à savoir la relation de dévoration. C'est pour autant qu'il est arrivé à cette impasse, qu'il ne connaît pas d'autres relations réelles que celles que l'on appelle, à tort ou à raison, sadiques orales. C'est ce que j'écris petit m, dit-il. Et à quoi s'ajoute tout ce qui est le réel pour lui, en particulier ce réel qui vient de venir au jour et ne manque pas de compliquer la situation, à savoir Pi, son pénis. Voilà. Alors, comment il va en sortir avec ça? Alors, voilà comment le problème se pose pour lui. Et donc, il est nécessaire que s'introduise, pour qu'il y a, puisqu'il n'y en a pas d'autre, un élément de médiation métaphorique. On mettrait le père à la place de ça. Eh bien, lui, puisque le père est Charon, qu'est-ce qu'il va mettre? Le cheval. Un cheval avec l'esprit rude. Donc, ça va instaurer un symptôme, si vous voulez. Symptôme phobique. Je ne sais pas si on voit. J'ai mis un « i » là en haut. Il met d'ailleurs un petit accent comme ça, avec l'esprit rude. Donc ce petit signe indique l'esprit rude du cheval. Et il dit, Lacan dit que c'est équivalent, cette formule-là, c'est l'invention, le mythe. Enfin, c'est ce que le petit Hans a mis en place, c'est équivalent à la métaphore paternelle, ça. On le voit, c'est... Alors, ça ne résout pas pour autant le problème de la morsure, comme on le voit. Il a toujours affaire à la morsure, en tant qu'elle est pour lui un danger majeur de toute sa réalité, et spécialement de celle qui vient d'arriver au jour, à savoir sa réalité génitale. Donc, voilà le danger pour lui. Alors, dans cette construction, au fond, qu'est-ce qu'on va mettre en évidence? Alors, c'est une invention. C'est l'invention du petit Hans. C'est une métaphore. C'est cette métaphore que constitue... Donc, métaphore qui est un symptôme. C'est le symptôme du petit Hans. C'est sa phobie. Hein? Bon, d'abord, on va souligner ceci, c'est que la phobie du petit Hans, c'est une tentative de solution. Et pas n'importe laquelle, puisque Lacan nous indique qu'elle a la même structure que celle de la métaphore paternelle. Alors, que fait Hans? Eh bien, il commence par... Qu'est-ce qu'il fait? Il a affaire à cette masse qui remue, qui est inquiétante, et il commence à qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il commence à accrocher à ce chariot plein à craquer, ce chariot qui est une métaphore de la mer, une mer pleine qui avale tout, ce chariot qui est inquiétant, qui peut emporter toute la maisonnée, d'ailleurs raison pour laquelle le petit Hans se sent bien seulement chez lui, il ne veut pas sortir de chez lui, il ne veut pas quitter sa maison. Et qu'est-ce qu'il fait de ce chariot? Eh bien, à ce chariot, il attelle un cheval. Et ce cheval a ceci de particulier, que c'est d'abord, et c'est ça l'important, c'est d'abord un signifiant, c'est un mot. C'est primordial. Et qui fait que le petit Hans est un petit névrosé et pas un pervers. C'est insignifiant à tout faire, précise Lacan. Et chaque fois que chez un sujet, précise Lacan, on a affaire à une phobie, eh bien, on peut s'apercevoir que l'objet de cette phobie est toujours insignifiant. Retenez ça. Et ce signifiant, Lacan le substitue à l'ensemble maternel menaçant. Donc il vient à la place de ce chariot, de l'ensemble maternel menaçant. Et ce qui est particulier, c'est que ce signifiant cheval remplit toutes les fonctions de la chute réunie, remarque Lacan. Et c'est à ce titre qu'il commence à être introduit comme un terme essentiel dans cette phobie. Alors, ce signifiant, le petit Hans en fait un cristal. Un cristal, c'est le premier cristal d'une cristallisation organisée entre le symbolique et le réel. Et ce cristal devrait permettre au petit Hans de faire tenir, si vous voulez, ensemble son univers. De faire de son univers quelque chose qui tient la route, qui soit stable. De faire tenir ensemble le réel, le symbolique et l'imaginaire. Mais, comme on l'a déjà sûrement fait remarquer, bien qu'elle soit une tentative de solution, qui fait usage d'ailleurs de la métaphore, la phobie, on en convient tous, ça n'est pas une bonne solution. Une phobie n'est pas une solution confortable pour un sujet. Pourquoi alors assiste-t-on au développement d'une phobie chez ce petit bonhomme, chez le petit Hans ? Alors, Lacan répond ceci, dit, vous verrez toujours apparaître une phobie chez l'enfant à ce moment critique qui est typique, quelque chose manque qui viendra à jouer le rôle fondamental dans l'ici de la crise de la relation de l'enfant à la mère. C'est toujours à ce moment-là que se produit une phobie. La mère est devenue une puissance sans contrôle, imprévisible, avec laquelle on ne joue plus, c'est-à-dire plus de règles du jeu, et où intervient son petit pénis réel à cause duquel il se fait taper sur les doigts, dit Lacan. Donc il essaie de trouver une solution du côté du père, il interroge la fonction du père. Et donc il se retrouve avec cette question qu'il pose d'ailleurs très concrètement, le petit Hans, à son père. Mais c'est quoi un père? Il la pose sans arrêt à son papa. T'es qui, toi? T'es quoi en tant que père? Lui demande-t-il au moment où lui, petit enfant, a besoin de lui pour réguler, si vous voulez, ses rapports à sa mère. Et si le père est carent, c'est ce qui est le cas, insuffisant, trop faible, alors l'enfant doit inventer quelque chose qui va jouer cette fonction métaphorique. Et c'est ici que la phobie du cheval va trouver sa pertinence, pour assurer la stabilisation de son angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse n'a pas là un objet, dira Lacan après, mais il va accrocher à l'angoisse insignifiant quand même, pour remplir la fonction de transformer cette angoisse en peur localisée, dit Lacan. Il a besoin de ça, le sujet. Il choisit une forme qui constitue un point d'arrêt, un terme, un pivot, un pilotis, autour de quoi s'accroche ce qui vacille, et que menace d'emporter le courant intérieur issu de la crise de la relation maternelle. Tel est, dit Lacan, dans le cas du petit Hans, le rôle du cheval. Alors, Hans va faire subir toutes sortes de transformations et de modifications à son cheval. C'est d'ailleurs l'intérêt d'un signifiant. On fait ce qu'on veut avec un signifiant. Hans va tenter de tirer tous les bénéfices possibles et imaginables d'une dialectique de la fonction du cheval. Le cheval peut être attelé, peut être dételé, il peut mordre, il peut tomber, toutes sortes de choses peuvent lui arriver. Et dans tout ce travail, on s'aperçoit que Hans va se mettre à construire une logique de son univers, avec ce cheval, à lui donner une explication, un sens, à lui donner du sens. Il peut procéder à des échanges, des permutations de signifiants. Il procède à toutes sortes de modifications. Au fond, il construit un mythe. Donc, vous connaissez la fonction du mythe, hein, qui est de traiter le réel. Et au bout du compte, à quoi tout cela aboutit? C'est à une transformation. Une transformation qu'on doit considérer, après tout, comme formidable, hein, et décisive. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va transformer la morsure du cheval, c'est rigolo, en un dévissage de la baignoire. C'est ce à quoi on assiste lorsqu'il produit son fantasme de la baignoire. Le plombier vient, il vient dévisser la baignoire, et on s'aperçoit. De quoi, dit Lacan? Eh bien, on s'aperçoit que les personnages de son univers ont changé du tout au tout, dans le même mouvement. C'est pas pareil, dit-il, de redouter la morsure de la mer ou de dévisser la baignoire, vous en conviendrez tout de même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de la déboulonner, de la mobiliser dans toute cette affaire. de faire qu'elle entre aussi dans l'ensemble du système, elle entre elle-même dans l'ensemble du système, et de la transformer ainsi, pour la première fois, nous dit Lacan, en un élément mobile du même coût équivalent aux autres. Donc, toutes ces transformations de la phobie ont pour résultat le déclin de la mère par rapport à l'enfant et la maîtrise qu'il prend progressivement de son univers. Et de ce point de vue, au fond, on peut considérer que tout ce travail est une réussite, puisqu'il va aboutir à un apaisement du symptôme phobique du petit Hans. Il pourra se passer de sa phobie, une fois ce dévissage opéré. C'est un vrai progrès, et qui lui rendra d'ailleurs la vie tout à fait supportable, qui fera même plus que ça, vous allez voir. Et cependant, cette solution finale, qui fera disparaître la phobie, n'est pas une solution parfaite, dit Lacan en ce moment-là. Soit dit en passant, vous savez, chez le névrosé, aucune solution n'est parfaite. Bon, ici, il souligne ça. Ça n'est pas pleinement réussi du point de vue de l'intégration et du plein, fait remarquer Lacan. Pourquoi ? Alors, il fait un double constat. Premièrement, au bout du compte, qu'est-ce que profère Hans ? Eh bien, Hans dit, maintenant je suis le papa. Alors, pourquoi il a cette idée ? Alors, tout au long de l'observation, Hans ne cesse pas de le stimuler, le père, de le supplier. Mais fais donc ton métier de père, occupe-toi de ma mère. Il va même jusqu'à lui dire, tu dois être jaloux. Et Lacan met d'ailleurs en exergue le fantasme tardif de la progression de la phobie où le père attrape juste à temps, si vous vous rappelez, si vous avez lu le petit Hans, il attrape juste à temps le train qui doit les conduire chez la grand-mère, alors que le petit Hans, lui, cavale déjà en avant avec la grand-mère, en avant là. La première chose que lui demande le père, c'est « Maintenant, que feras-tu à ma place si tu étais le père ?» Et Hans lui répond « Oh, c'est bien simple. » Cette phrase est extraordinaire. C'est bien simple. Je t'emmènerai tous les dimanches voir grand-maman. Donc, vous voyez que Hans indique ici que c'est la grand-mère qui occupe cette place éminente que devrait occuper son père. Mais ce faisant, quand il fait ça, eh bien, il opère une opération de dédoublement de la mère aussi bien. Ce qui, cliniquement, est une opération intéressante. La mère, à la fin du progrès de la phobie, est dédoublée. Alors, vous voyez ce quatrième terme, hein, qu'il n'a pas trouvé, qu'il n'a pas suffisamment trouvé chez son père, il le trouve chez sa grand-mère. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il a accès à la métaphore paternelle, que ce n'est pas un sujet psychotique. Hans a très bien perçu la valeur tout à fait décisive de cette grand-mère, que cette grand-mère avait dans le discours de son père. Et donc, c'est en instaurant derrière la mère une seconde qu'il invente, une sorte de paternité. Mais, comme on peut s'en apercevoir, il instaure du même coup une lignée généalogique sans le père, une lignée féminine. Et c'est le second constat de Lacan. Deuxièmement donc, le point final de sa phobie est particulier. Le fantasme de la baignoire, justement, vous voyez, le fantasme de la baignoire. Souvenez-vous, j'avais dit, il faut une opération de soustraction pour qu'on lui puisse lui donner légitimement l'usage de son pénis. C'est pas ce qui se produit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment ? Dans ce fantasme de la baignoire, il ne reçoit pas légitimement le phallus lui permettant d'accéder à son sexe. Alors bien sûr, il parvient à dévisser la mère quand même. Mais dans le même temps, il reçoit quoi ? Eh bien, si vous avez lu l'histoire du science, à la place du pénis, à la place du phallus, dont il pourra user légitimement, il reçoit un nouveau derrière. On lui change le derrière pour lui en donner quoi ? Pour lui en donner un plus gros. Et pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Justement, pour remplir, pour occuper le creux de cette baignoire qui symbolise la mer. C'est là, souligne Lacan, que se voit le caractère atypique, anomalique, dit-il, presque inversé de la situation. Ce que Lacan appelle la formule normale du complexe de castration comporte que le garçon, pour ne parler que de lui, ne possède l'usage de son pénis qu'à la condition de le retrouver en tant qu'il lui est rendu. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Qu'il lui est rendu après qu'il l'ait perdu. Il faut d'ailleurs faire remarquer que dans le progrès de la phobie, le petit Hans n'arrête pas de demander à son père de le lui faire subir, ça. Il le semble presque de lui faire subir. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après toutes ces épreuves, ce qui se passe en définitive n'intéresse pas son sexe. N'intéresse pas son sexe, mais son derrière. C'est-à-dire son rapport à sa mère. Cela va avoir des conséquences, vous voyez, pour le destin de cet enfant. Parce qu'on connaît son destin. Bien qu'il soit névrosé, Lacan va jusqu'à dire que ce sujet n'est pas passé par le complexe de castration. Vous voyez, à la première formule, il ne serait pas passé par le complexe de castration, mais par une autre voie. Pour être plus précis, il dispose bien du nom du père, comme on le voit. Le refoulement a opéré chez ce sujet, opère chez ce sujet, ce qui est un signe de la névrose quand même. C'est un signe de la métaphore paternelle. D'ailleurs, il a opéré ce refoulement, comme on l'apprendra plus tard lorsqu'on va l'interroger en adulte, une fois adulte, et qu'on lui posera la question une fois devenu adulte. Est-ce que vous vous rappelez votre phobie de l'âge de vos 5 ans? Il ne se souvenait de rien du tout. Donc c'est une autre voie, comme l'indique le mythe de l'installateur qui lui change derrière. Cette autre voie va le conduire à un rapport singulier avec les femmes. Donc, malgré la présence paternelle, le petit Hans va s'inscrire dans une lignée matriarcale. Et pour aller au plus simple, une reduplication maternelle, comme si, dit Lacan, il est nécessaire qu'il y eut un troisième personnage. Que faute que c'ait été le père, c'est la fameuse grand-mère. Et lorsque va se résoudre la phobie du petit Hans, Hans va instaurer une paternité imaginaire. Quand même, vous voyez, l'imaginaire gardera pour lui toute sa valeur, je dirais même sa noblesse, parce qu'il va faire avec ça quand même dans la vie. Hans explique qu'il va devoir avoir des enfants, mais ce sont des enfants imaginaires. Il s'occupera de ses enfants imaginaires. Il aura des enfants fantasmatiques. Hans va aimer les femmes. L'hétérogénéité de Hans n'empêche pas qu'il soit fondamentalement dans une position féminine, à tel point que Lacan le désigne comme la fille de deux mères. C'est Miller qui dit ça. Et son destin va être de s'intéresser à l'art. Je pense qu'il a été metteur en scène, si j'ai bien compris. Créateur dans l'ordre imaginaire, au fond. Il va devenir un monde du théâtre. Ce qui, soit dit en passant, est en soi, disons, une solution très honorable. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Bernard Seigneur. Vraiment, tout d'abord, vous remercier pour le parcours que vous avez repris, au fond, à partir de votre introduction sur l'ensemble du séminaire. C'était vraiment, je me mettrai à bonne distance, intéressant de revoir au fond cette vue globale du parcours qu'on a fait ces mois-ci. Vraiment, c'est très très bien. Et il y a une série effectivement de questions qui me sont venues en vous écoutant, donc je vais peut-être les lancer. Je pense aussi qu'il ne faut pas répondre à toutes, mais j'ai peut-être juste pointé des questions qui sont survenues en vous écoutant. Vous avez dit au départ qu'au fond, avoir l'objet fétiche n'était pas du tout la même chose que d'être l'objet fétiche, et que lorsqu'on avait l'objet fétiche, on se situait plutôt du côté de la perversion. Voilà, si vous pouviez peut-être en redire un petit mot par Mais rapport à ça.
Vous savez, si vous me permettez, je vous propose de reprendre ça à la prochaine leçon, parce que c'est ce qui sera développé, je pense, dans la toute dernière leçon. En fait, que je n'ai pas lu non plus. Hein. Mais effectivement, dans le cas du petit Hans, on a une solution qui n'est pas la même que celle, par exemple, de Léonard de Vinci, qui avait été développée par la suite. Le petit Hans se propose comme objet fétiche de la mer. C'est en tant qu'il enfin, c'est comme ça que le propose Lacan, qu'il peut le définir comme étant l'objet fétiche de la mer. Mais la solution du pervers, c'est effectivement d'user de l'objet fétiche. Alors, on entre dans des considérations qui sont plus compliquées, si vous voulez, par rapport à l'objet fétiche lui-même. Vous verrez ça la prochaine fois. Néanmoins, le pervers, l'usage, au fond, comment on pourrait dire les choses encore autrement? En fait, je vous ai dit, le petit Hans se présente tout érigé devant sa mère. Mais il se propose, lui, comme étant ce qui manque à la mère. Le pervers, on pourrait, pour faire une petite comparaison, comment s'y prendrait le pervers? Le pervers, l'exhibitionniste, par exemple, ben, le pervers, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas qu'il est l'objet fétiche de l'autre, c'est qu'il exhibe l'objet pour faire vaciller l'autre. Il brandit l'objet pour faire vaciller l'autre. C'est ça qu'il fait, le pervers. Il a un usage de l'objet, c'est pas une identification à l'objet, c'est un usage de l'objet réel, tellement réel que l'autre, une fois qu'il a affaire à ça, va vaciller, va être divisé. Il divise l'autre avec l'objet. C'est pas ce que fait Hans. Hans se propose, s'identifie à ce qui pourrait manquer à la mer. Il est ce qui manque à la mer. Le pervers va exhiber cet objet, va brandir cet objet pour faire vaciller l'autre, pour diviser l'autre avec l'objet, mm-hmm. Pas en étant l'objet. Même s'il se présente lui, c'est pas du tout du même ordre. Maintenant, donc Lacan fait un rapprochement avec Léonard de Vinci, mais ça vous verrez la prochaine fois si vous voulez bien.
D'accord. Alors, voilà, je trouvais aussi que le petit extrait en 57-58, comme vous le dites, sur cette petite vignette du fond des Amériques,
oui.
Était particulièrement intéressante. Enfin, maintenant qu'on peut voir au fond,
ben
ça
oui.
Avec le recul et toutes les questions. Posée voilà, par la biologie, par les questions de clonage, la biologie génétique et donc la science. Et au fond, je me disais en vous écoutant que ce qui fait suppléance dans nos sociétés actuelles, si je peux dire, à tout ce qui est de l'ordre de cette fonction symbolique que le père réel, vivant, va supporter, si je peux dire, dans une relation, on va dire, classique. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est ce qu'on a vu fleurir ces 50 dernières années, de toutes ces mises en place des comités d'éthique, au fond, dans les institutions, chaque fois que des décisions délicates comme celle-là surgissent?
Oui. Mais je pense que, donc... La psychanalyse ne prend pas parti, je pense, ne va pas moraliser la chose, ne prend pas parti. En fait, la psychanalyse va plutôt recevoir les gens, ils doivent seulement. Enfin, la psychanalyse va tenir compte des effets que ça aura chez les sujets. En 57-58, on est encore dans le. schéma de la famille unicellulaire, tout ça a subi de profonds bouleversements, remaniements. Maintenant, on est beaucoup plus loin. J'ai tenu à regarder ce reportage, peut-être que vous avez vu, des mères porteuses en Inde, donc qui est passé il y a quelques jours maintenant. On ne sait pas ce que ça va donner chez... Au fond, c'est un peu un cas similaire. On ne sait pas ce que ça va donner, quels effets ça aura chez ses enfants. Moi, je n'en sais strictement rien. Ce qui va se produire probablement, c'est que ces enfants qui maintenant sont déjà d'ailleurs adultes aussi, certains viendront en analyse pour différentes raisons. Ils sont déjà en analyse maintenant. Il y en a qui ne le sont pas, ils se débrouillent avec ça ou ils se débrouillent mal. En fait, ils vont retrouver des problèmes. Je n'ai pas de prédiction par rapport à ça. C'est le problème.
Je n'entendais pas la question des comités d'éthique du côté de la psychanalyse, mais au fond, comme quelque chose que la société a mis en place dans certains lieux pour répondre à ces évolutions.
Qu'on empêchera, à mon avis, quand même réaliste aussi, on n'empêchera pas l'évolution, le développement du discours de la science. Le discours de la science est un discours acéphale qui va continuer, qui va se poursuivre. Ce qui est possible pourra se réaliser du point de vue de la science.
Alors, peut-être encore une dernière question, mais...
Les comités d'éthique vont devoir se débrouiller avec ça.
Peut-être encore une dernière question. Au fond, j'ai lu les séances ici et j'ai abordé les formules telles que vous les avez ramenées ce soir au tableau.
C'est Lacan, hein.
Telles que vous les avez inscrites, je vais dire, au tableau. Et je n'avais pas perçu cette différence, au fond, du côté, j'ai envie de dire, la partie de gauche, au fond, qui reprend le complexe d'Œdipe, où apparaît finalement le phi pour le phallus, et à droite du côté castration, le pi pour le pénis.
Oui.
Voilà, est-ce que vous pourriez peut-être en dire quelque chose?
Mais il faudrait peut-être reprendre le tableau qui est là en haut aussi. Peut-être on peut s'appuyer sur le tableau qui est là en haut. En fait, je vais essayer. Comment Lacan le reprend? Donc, le phallus, donc la castration est symbolique et l'objet est imaginaire. Dans le cas du petit Hans, il est dans la frustration et il a affaire à un objet réel. C'est son pénis qui jouit. Et Lacan le présente d'ailleurs comme un objet hétérogène, une jouissance hétérogène. Effectivement, le risque, c'est difficile évidemment de se mettre dans la tête d'un enfant pour tenter de se représenter ça. On est tout de suite dans l'imaginaire d'ailleurs. Mais ça présente un risque réel quand c'est pas la peine de prendre le problème du côté, par exemple, du comportementalisme. Qu'est-ce que ferait le comportementalisme? C'est apprendre à l'enfant à vivre avec le cheval. On va le mettre à 10 mètres, on va la rapprocher, etc., etc. Mais ça n'empêchera pas qu'il fera son cauchemar, qu'il aura l'idée de ce qu'il pourrait le mordre, de ce qu'on pourrait le mordre. Et sa solution, il ne la trouvera que du côté de la métaphore. Quelle que soit l'approche qu'on aura, c'est quand même de ce côté-là qu'il va devoir aller s'il est névrosé. Du côté de la psychose, c'est parfois beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de phobie du côté, pas au sens où Lacan l'a défini, c'est-à-dire un symptôme où l'objet phobique est insignifiant. Du côté de la psychose, c'est quand même avec le réel qu'il aura à faire. Et il ne pourra pas traiter ça comme le névrosé. Donc le phallus est imaginaire, le pénis est réel.
Voilà.
C'est un objet réel. En fait, c'est vite dit, je trouve, dans ce qui traverse le séminaire, c'est quand même effectivement... Donc, qui présentait la mère comme étant quelqu'un de féroce. Donc je trouve que c'est peut-être un peu sévère, c'est-à-dire peut-être on n'a pas assez souligné cet aspect que tu indiques là. Et de toute façon, par la suite, Lacan dira la femme n'existe pas. C'est-à-dire que la femme va devoir inventer sa sexualité, va devoir se débrouiller avec sa sexualité. La femme, la fille va devoir tourner en femme, et c'est une véritable invention. Ce qui n'est pas chose facile, elle va se débrouiller comme elle peut avec ça. Et en plus, si elle n'a pas d'homme qui peut la faire femme, si elle trouve plus d'homme qui peut la faire femme, c'est pas si simple non plus. Et on les retrouve effectivement en analyse, ces femmes qui tentent de se débrouiller avec leur sexualité, avec leur féminité. C'est pas aussi simple. Donc, j'aime bien ce que tu dis parce que ça ne met pas suffisamment en évidence le côté où le père est décadent. Ce côté-là, c'est quand même ce qui arrive aussi à ce petit bonhomme.
Oui, c'est le drame.
C'est le drame humain. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Parce qu'au fond, dans le séminaire, on met l'accent sur le fait que le petit Hans, c'est cette femme, cette mère, elle est comblée par son petit garçon. Il souligne, mais peut-être pas suffisamment, le fait que cet homme n'arrive pas à combler cette femme. À faire d'elle une femme, à la faire tourner en femme. Enfin, je dis tourner parce que c'est ce que dit Freud lui-même. Hein. La petite fille va devoir tourner en femme.